Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Les étrangers peuvent désormais acheter des terrains en République tchèque. Un match du Slavia a été arrêté à cause de supporters violents. Et puis, hockey sur glace, c'est le derby tchécoslovaque ce vendredi soir. La Chambre des députés a adopté un amendement à la législation qui ne pose plus de limite aux étrangers désireux d'acheter des terrains agricoles et autres biens fonciers en République tchèque. La loi interdisant aux étrangers d'acheter des terrains avait été une des exceptions obtenues par la République tchèque il y a 7 ans, lors de son adhésion à l'Union européenne. La loi avait cependant été contournée. Actuellement, il y a dans le pays des milliers d'hectares de terres agricoles en possession de sociétés au capital étranger, mais avec un siège social en République tchèque. D'autres nouveaux pays membres de l'Union ont choisi de demander à Bruxelles une prolongation de l'interdiction. Le taux de chômage en République tchèque à la fin du premier trimestre de cette année a atteint 7,3%, ce qui représente une baisse de 0,9 points par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le premier trimestre de cette année, il y a eu en République tchèque 376 200 chômeurs exactement, ce qui est de 46 500 de moins qu'à la même période de l'année 2010. Ce sont les chiffres publiés par l'Office statistique tchèque, qui a enregistré notamment un taux de chômage élevé dans la catégorie des personnes sans formation professionnelle. Le nombre des chômeurs a baissé notamment dans la population masculine. On passe au sport, je vous le disais en titre, un match de football opposant le Slavia Prague au Sigma Olomouc, c'est comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de République tchèque, a été arrêté par l'arbitre à la suite de violences dans le stade. Plusieurs centaines de supporters ont envahi le terrain durant la pause, exigeant que la direction du Slavia leur dise toute la vérité sur la situation financière du club, qui risque de se voir retirer prochainement sa licence pour la prochaine édition du championnat. Plus d'informations, ce sera dans un instant dans la rubrique « Faits et événements ». Une triste nouvelle à Ostrava, un éléphanteau âgé de quelques semaines seulement est mort au zoo de la ville ce vendredi. Il était le premier éléphant né sur le sol tchèque le 11 mars dernier, mais il était né prématuré et ne parvenait pas à gagner du poids. Un autre éléphanteau né le mois dernier est en revanche en bonne santé et grandit rapidement. Toujours une nouvelle, on revient au sport avec du hockey sur glace cette fois-ci. Vous le savez, ce sont les championnats du monde en ce moment en Slovaquie. Et un gros match en perspective ce vendredi soir à Bratislava dans le cadre des huitièmes de finale. Slovaquie contre République tchèque, un derby tchéco-slovaque toujours très suivi dans les deux pays depuis leur séparation en 1993. Les Slovaques auront l'avantage de jouer à domicile, mais les Tchèques ont mieux commencé le tournoi. Depuis 1993, les Tchèques l'ont emporté à 33 reprises et les Slovaques à 10 reprises. Lors du dernier mondial en Allemagne l'année dernière, les coéquipiers de Jaromír Jágr ont largement battu l'équipe slovaque sur le score de 8-0. Juste un mot pour finir pour vous dire que c'est le week-end marathon à Prague qui se courra dimanche et Guillaume Narguet qui le dispute également vous tiendra au courant des résultats avec une météo qui restera ensoleillée et des températures comprises entre 19 et 23 degrés pour les maximales ce samedi. Et dans une poignée de secondes, vous retrouvez le même Guillaume Narguet pour la suite du programme en France et de Radio Prague. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour la rubrique économie-commerce consacrée cette semaine à la Tunisie.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, en cette fin de semaine, figure d'abord, une fois n'est pas coutume du football, lourdement endetté, le club du Slavia de Prague est en effet au bord de la faillite et pourrait être relégué en 3e division la saison prochaine. Jeudi, les supporters du club centenaire, monument du sport tchèque, ont violemment protesté contre les propriétaires du club. Plus de détails dans quelques instants. Dans les 20 prochaines minutes, il sera aussi question de culture avec de l'opéra et la première au Théâtre National de Prague de l'œuvre de Mozart, l'enlèvement au sérail. Tout cela avant de laisser place à la rubrique économique et au secrétaire d'État tunisien en charge du tourisme. Il était de passage en République tchèque cette semaine. Voilà pour les titres. Très bonne écoute à toutes et à tous. On commence donc avec du football. Le célèbre club pragois du Slavia, vainqueur du championnat tchèque en 2008 et 2009, traverse une des périodes les plus sombres de son histoire, longue de près de 120 ans. Confronté à de graves problèmes financiers, le club pourrait perdre son statut professionnel et être relégué en troisième division la saison prochaine. En colère face à cette situation, plusieurs centaines de supporters ont envahi la pelouse jeudi soir à la mi-temps de la demi-finale de la Coupe de République tchèque contre le Sigma Olomouc, entraînant ainsi l'arrêt prématuré du match. La Fédération tchèque de football, présidée par Ivan Hašek, l'ancien entraîneur de Strasbourg et de Saint-Étienne, a statué jeudi sur la réattribution, ou non, de la licence permettant au club tchèque d'évoluer au sein des deux premières divisions professionnelles. Or, pour le Slavia, les problèmes financiers s'accumulent depuis de longs mois, les joueurs n'ont pas été payés depuis le début de l'année, tout comme les autres salariés du club. La priorité était donc d'abord de rembourser cette dette qui s'élève à environ 10 millions de couronnes, soit près de 410 000 euros. Il s'agissait là de l'une des conditions sine qua non à la réattribution de cette fameuse licence, comme l'a expliqué Borislav Pavlik, président de la commission en charge de l'attribution des licences professionnelles à la Fédération tchèque de football.
Nebyly předloženy podklady, které by byly možné vyhodnotit ve vztahu.
Les documents permettant d'évaluer la structure de propriété de la société anonyme qu'est le club et ses engagements vis-à-vis des employés et des joueurs, à savoir combien il leur doit, ces documents ne nous ont pas été présentés. Nous avions également besoin d'informations supplémentaires relatives à l'avenir financier du club. Nous n'avons rien reçu de tout cela et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas lui attribuer de licence.
Tyto informace jsme nedostali, proto jsme rozhodli licenci neudělit.
En d'autres termes, la Fédération tchèque a jugé que le club n'avait pas actuellement une structure financière suffisante pour évoluer à nouveau dans l'élite la saison prochaine. Outre le fait de ne pas avoir assumé ses engagements vis-à-vis de la Fédération, de ses joueurs et de son personnel, les dirigeants du Slavia ont également fait preuve d'un manque de transparence, communiquant trop peu et par trop maladroitement sur la structure du capital du club et les réels moyens dont il dispose actuellement pour sortir la tête de l'eau. La nouvelle est tombée relativement tard dans la soirée de jeudi, après que le Slavia, devant son public, ait affronté Olomouc, au moins le temps d'une mi-temps, en match aller des demi-finales de la Coupe de République tchèque. Le match a été interrompu à la mi-temps, suite à l'envahissement du terrain par les ultras, alors que les deux équipes avaient rejoint les vestiaires à l'issue des 45 premières minutes sur le score de 1 partout. Les supporters du Slavia avaient décidé d'exprimer leur mécontentement, jugeant les dirigeants responsables de l'incapacité du club à éponger ses dettes et à trouver un repreneur. Les éléments les plus radicaux sont ainsi parvenus à infiltrer le secteur VIP du stade, avec l'intention de lyncher les administrateurs du club et de saccager les installations, contraignant la police à intervenir. Il ne s'agit sans doute pas là de la meilleure façon d'aider le club, puisque la fédération devrait accorder le gain du match à Olomouc sur le score de 3-0. Par conséquent, les chances du Slavia de se qualifier pour la finale lors du match retour en Moravie et éventuellement de se qualifier pour une Coupe d'Europe en cas de victoire finale dans l'épreuve sont désormais fortement compromises. Ce comportement des supporters a été vivement critiqué par le directeur général du Slavia, Miroslav Platil, pourtant descendu sur la pelouse pour tenter d'expliquer aux fans l'évolution de la situation financière du club.
Nous avions encore la possibilité de nous qualifier pour la Coupe d'Europe et c'est une opportunité dont nous nous sommes privés nous-mêmes. Mais surtout, nous avons gâché le travail des joueurs, ce qui s'est passé aussi très grave pour la réputation du club. Et je n'oublie les dégâts matériels dans le stade. Tout cela a été causé par des individus qui se disent supporters. Je ne comprends pas, c'est le moins que je puisse dire.
Malgré tout, il reste encore une chance pour le Slavia de s'en sortir puisque la commission en charge de l'attribution des licences se réunira à nouveau avant la fin du mois. Elle pourrait donc revoir sa décision. Les espoirs se tournent désormais vers la société d'investissement Natland qui pourrait injecter de l'argent dans le club et ainsi éponger ses dettes. Mais même si tel était le cas, un autre défi financier de taille attendra le Slavia. La société britannique Enic, ancien actionnaire principal du club, lui réclame encore en effet plus de 100 millions de couronnes, plus de 4 millions d'euros. Le Slavia a jusqu'à cet automne pour honorer ses engagements. Les supporters de l'un des clubs les plus prestigieux du pays ont donc encore bien du souci à se faire. Il est indiscutable que l'enlèvement au sérail est un opéra créé par Mozart lorsqu'il était déjà en pleine possession de ses moyens. C'est donc un véritable coup de génie, mais ce chef-d'œuvre n'a pas figuré au cours de ces dernières années dans le répertoire du Théâtre National de Prague. Cette lacune sera donc comblée ce samedi pour la première de cet opéra. L'œuvre sera dirigée par Tomáš Netopil et sa mise en scène sera signée Joël Lovers. À cette occasion, le metteur en scène belge a bien voulu répondre aux questions de Václav Richter. Voici un extrait de cet entretien.
Quels sont les pièges qui menacent le metteur en scène qui met en scène justement un opéra et un opéra de Mozart en particulier?
Je pense qu'ils sont tellement faits déjà qu'il y a tout un bagage un peu de clichés qui, et de traditions qui accompagnent l'œuvre. Mais donc ça la rend encore plus intéressante quand on essaie justement de s'en débarrasser de ces clichés, de toutes ces traditions et de voir ce que l'œuvre a encore vraiment de moderne, et on s'aperçoit que chez Mozart c'est extrême, cette richesse et cette modernité.
Dans quelle mesure vous avez tenté d'éviter ces clichés?
Particulièrement dans l'enlèvement au sérail, il y a quelque part autant de clichés, disons, un peu vieux jeu et traditionnel, d'humour un peu pataud et un peu lourd, aussi bien, je trouve, que de clichés plus récents, d'utiliser l'œuvre pour parler des problèmes du Proche-Orient ou entre juifs palestiniens et tout ce qui sont devenus également une sorte de clichés. Et donc j'ai vraiment essayé de ne faire ni l'un ni l'autre.
Est-ce que justement ça se reflète d'une certaine façon dans votre production, parce que l'opéra a été créé à l'époque où l'Europe et l'Autriche étaient menacées par les invasions turques, n'est-ce pas? Et finalement tout cela devait se refléter aussi dans, je crois, dans la gestation de cet opéra.
Certainement, c'est ce qu'il y a, mais c'est aussi une grande période de l'art justement orientaliste où... D'un certain côté, il y avait une fascination pour l'Orient. D'un autre côté, il y avait un peu plus ce que j'appellerais une sorte de turquerie qui était extrêmement moqueuse et où le principe était un petit peu de... Enfin, pas un petit peu, était assez d'être assez raciste et donc de présenter le monde oriental comme mauvais. On le sent dans une Führung, un peu dans un des personnages, mais que Mozart, justement, voulut, et ses lettres le montrent, traité avec beaucoup de finesse, et du coup ça m'a vraiment donné l'envie de ne pas tomber dans cette démonstration négative sur l'Orient, ou faire l'inverse, mais je pense que la pièce n'a pas cela comme moteur principal.
Aujourd'hui souvent les opéras sont actualisés, sont transposés dans le temps, etc. Est-ce que vous avez fait aussi une production de ce genre?
Non, je pense que bon, certaines œuvres s'y prêtent, et puis certains metteurs en scène aiment beaucoup faire cela. C'est pas trop mon goût. Moi, je pense que l'œuvre de Mozart, je la trouve d'une modernité incroyable, et que ce n'est pas vraiment la peine de mettre les gens en jeans ou en patins à roulettes pour justement faire ressortir toute la modernité de sa musique et de la psychologie de sa musique.
Qu'est-ce que cet opéra représente pour vous? Est-ce une comédie, un divertissement, une histoire d'amour?
Je pense que, justement, chez Mozart, il y a beaucoup de niveaux et beaucoup de richesses, mais on a une histoire finalement assez simple, avec des moments plus détendus, beaucoup de moments tout de même dramatiques. L'histoire est assez dramatique, c'est un enlèvement. Et je pense qu'il y a... avant tout, là, caché souvent dans la musique, ou parfois plus évident, une description de l'amour et de toutes ces difficultés. Et par là, je pense que Mozart arrive à nous donner des sensations, des émotions qui sont, je trouve, vraiment tout à fait valables encore de nos jours.
C'était donc Joël Lovers, le metteur en scène belge de l'enlèvement au Sérail, un opéra de Mozart actuellement présenté par le Théâtre National de Prague. C'est avec lui que s'achèvent les faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Celui-ci se poursuit avec la rubrique économique. Le secrétaire d'État tunisien chargé du tourisme, Slim Chaker, était cette semaine à Prague. Il s'agissait de la première visite d'un membre du gouvernement de transition mis en place après la révolution du jasmin et la chute du régime du président Ben Ali. L'occasion pour Alexis Rosenzweig de poser quelques questions à Slim Chaker sur la situation en Tunisie, sur le tourisme et sur les relations entre Prague et Tunis.
Économie, commerce.
Bonjour monsieur le secrétaire d'État, est-ce que pour commencer je peux vous demander d'abord de nous dire quel est l'objectif de votre visite à Prague?
Bonjour, l'objectif de ma visite à Prague c'est premièrement un geste politique. C'est l'un de mes premiers déplacements en tant que secrétaire d'État au tourisme dans le gouvernement transitoire qui a pris ses fonctions après la révolution du 14 janvier. Prague, c'est important, c'est de nouvelles façons de voir les choses, c'est de nouvelles façons d'aborder les choses, c'est de nouveaux axes de coopération qui n'ont pas été explorés jusqu'à aujourd'hui, et je suis là depuis maintenant pratiquement 36 heures. J'ai eu l'opportunité de rencontrer mon homologue, le vice-ministre au développement régional et au tourisme, et juste parce que j'ai rencontré mon homologue, on a identifié plusieurs axes de coopération, par exemple comment envoyer des architectes, des élèves architectes tunisiens regarder un peu l'architecture à Prague, comment envoyer dans le sens contraire des élèves tchèques en architecture regarder de très près l'architecture tunisienne, comme Sidi Boussaïd, mais aussi comme ce que nous avons dans le sud tunisien, à Matmata, à Tozeur. Ce sont des choses uniques, ce sont des spécificités locales avec beaucoup de technicité, avec beaucoup d'histoire, avec beaucoup de savoir-faire. Donc ça, c'est un axe de développement. Nous avons aussi convenu de travailler avec ensemble pour essayer de relancer le tourisme dans les deux destinations. Donc les Tchèques qui ont l'habitude de venir en Tunisie. En 2007, ils étaient 150 000. Aujourd'hui, le nombre a été divisé par deux, 75 000 uniquement. Donc, je suis venu pour comprendre pourquoi. Et là, je repars avec des idées. Et si j'étais resté à Tunis, je n'aurais jamais compris pourquoi. Je n'aurais jamais eu ce genre d'idées. Ça m'a aussi permis de discuter avec mon homologue des possibilités d'échange. Vous savez, aujourd'hui, la Tunisie, c'est un pays qui est devenu libre, qui est devenu démocratique. Ça veut dire que tous ceux qui veulent investir sont les bienvenus. Et pourquoi pas ne pas avoir des investisseurs tchèques chez nous? Pourquoi ne pas mettre en relation des hommes d'affaires tchèques et des hommes d'affaires tunisiens pour essayer de monter des projets en commun? Vous savez, la Tunisie peut très bien être un hub vers les pays d'Afrique et vers les pays du Maghreb. Donc voilà trois idées très simples. Si j'étais resté à Tunis et si je n'avais pas rencontré mon homologue, nous n'aurions peut-être pas eu ces idées.
Alors pourquoi cette baisse du nombre de touristes justement? Est-ce que c'est la concurrence d'autres marchés? Est-ce que c'est la crainte ou le manque d'informations sur ce qui se passe en Tunisie? Parce que c'est vrai qu'avec l'actualité internationale, on a eu tendance dans les médias à rapidement oublier ce processus qui est réellement important. C'est ce qui se passe maintenant, le processus démocratique en Tunisie?
Non, la baisse est avant, le processus est avant la révolution. La baisse, je vous ai dit, en 2007, vous étiez 150 000 à venir passer vos vacances en Tunisie. En 2010, vous êtes devenu 75 000. Il y a deux explications. La première explication, c'est la crise de 2008-2009 qui a fait qu'à travers le monde, beaucoup de touristes ont préféré rester chez eux. Et puis, il y a aussi un problème qui est spécifique à la Tunisie. C'est une compagnie aérienne de transport aérien qui transportait les touristes qui n'apportaient pas les prestations de service demandées, avec notamment beaucoup de retard. Et aujourd'hui, cette compagnie a été fermée. Et nous avons mis en place des compagnies beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces au niveau de la gestion. Et surtout, elles ont pris les engagements de respecter les horaires et le timing.
Alors, il y avait beaucoup d'infrastructures touristiques en Tunisie qui appartenaient au président Ben Ali ou à son clan. Comment ça se passe avec ces infrastructures désormais?
Sur 600 ou 700 hôtels en Tunisie, il n'y a qu'une vingtaine qui appartiennent uniquement au niveau du capital. C'est-à-dire que ce qui intéressait les proches de la famille de Ben Ali, c'était de mettre en place une structure, d'être partie prenante dans le capital, de confier la gestion à quelqu'un d'autre et de récupérer à la fin de l'année les bénéfices, etc. etc. Ben, c'est très simple. Nous avons adopté une démarche qui consiste à garder ces unités, à mettre un gestionnaire qui vient de la fonction publique tunisienne, de façon à préserver les emplois. Et puis, nous avons fait une expropriation du capital qui appartenait à la famille de Ben Ali. Le capital aujourd'hui, c'est le capital public. Il appartient au peuple tunisien, en attendant par la suite de voir comment on va faire pour reprivatiser ces unités, tout simplement. Donc, des solutions intelligentes, des solutions de bon sens qui consistent à préserver les emplois, parce que les pauvres personnes qui travaillent là-dedans n'ont rien à voir avec la famille. C'est des gens qui travaillent pour avoir de quoi nourrir leur famille et leurs enfants. Et puis, nous avons coupé la jonction entre l'entreprise et ceux qui détenaient le capital. Et nous avons exproprié, nationalisé le capital qui aujourd'hui appartient de nouveau au peuple.
À propos du processus démocratique, la République tchèque a une expérience récente du passage de la dictature à la démocratie. C'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est également un des angles de votre passage ici? Est-ce que les Tchèques peuvent vous apporter quelque chose de cette expérience?
C'est absolument ce que j'ai dit tout à l'heure à mon homologue tchèque. Je lui ai dit, vous avez fait la révolution du velours en 1989. Nous avons fait la révolution du jasmin en 2011. Le chemin que vous avez parcouru en 20 ans en mettant en place des élections libres et démocratiques et transparentes, en mettant en place un parlement, en mettant en place une constitution, en mettant en place un système de gouvernance basé sur la démocratie, en mettant en place de nouvelles institutions et surtout un système économique performant, ben, nous avons commencé, nous, notre chemin. Vous avez 20 ans d'avance, donc le chemin que nous commençons à explorer aujourd'hui, vous l'avez exploré avec nous, avant nous, et donc certainement que nous aurons besoin de votre know-how, certainement que nous aurons besoin de vos success stories, certainement que nous aurons besoin de vos conseils. Je suis sûr que ces conseils seront précieux, et j'ai convenu donc avec mon homologue du tourisme et du développement régional de venir en Tunisie pour une visite officielle, et je lui ai suggéré de ramener avec lui des businessmen, comme ça c'est la meilleure façon de mettre en place des choses très rapidement, des businessmen tchèques avec des businessmen tunisiens. Je suis sûr que certains, mettez-les ensemble autour d'une table pour 10 minutes, ils vont faire des affaires et ils vont faire des projets en commun. Et à mon avis, c'est la meilleure façon de renforcer la coopération entre la République tchèque et la Tunisie.
Ce sera peut-être d'ailleurs l'un des objectifs du chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, qui se rend en Tunisie dès la fin de cette semaine.
Effectivement, il se rend en Tunisie ce vendredi, et le dossier du tourisme figure parmi les dossiers à l'ordre du jour. Et donc je pense que aujourd'hui nous assistons au premier pas d'une coopération qui, je l'espère, sera fructueuse pour les deux parties.
On parlait de comparaison entre révolution de velours tchécoslovaque et révolution de jasmin tunisienne. Il y a eu dans les médias des comparaisons un peu plus poussées, avec notamment l'immolation de ce jeune Tunisien qui a été comparé à l'immolation du jeune Tchèque Jan Palach en 1969. Et certains Tunisiens ont dit, nous avons maintenant notre Jan Palach, mais il nous manque notre Václav Havel.
Oui, effectivement, il nous moque notre Václav Havel, et c'est pour ça que nous, gouvernement de transition, nous travaillons. Nous travaillons pour qu'il y ait le 24 juillet des élections transparentes, libres, démocratiques, et que pour qu'à l'issue de ces élections, qui j'espère seront très réussies, nous ayons nous aussi notre Václav Havel, et un ministre étranger qui est venu me voir juste après la révolution. En descendant de l'avion, il m'a dit, écoutez, monsieur Monsieur Chaker, j'ai vraiment eu un sentiment de fierté en venant en Tunisie, et le nom de la Tunisie sera gravé, sera inscrit dans les livres d'histoire. Je lui ai dit, Monsieur le Ministre, moi, mon objectif, c'est pas qu'il soit inscrit dans les livres d'histoire, et mon engagement, c'est pour qu'il soit gravé en lettres d'or dans les livres d'histoire.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État au Tourisme, et je vous souhaite un bon voyage vers Tunis.
Merci à vous de même, et merci aux auditeurs de Radio Prague.
Voilà, c'est donc avec cette rubrique économique et l'entretien de Slim Chaker, le secrétaire d'État tunisien chargé du tourisme, qui était en visite en République tchèque, que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité, proposé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.